J'ai entendu parler, alors j'étais venu pour prendre mon livre.
Quel livre ?
Celui que j'ai laissé sur la cheminée avant-hier.
C'est cela, la littérature ?
On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
C'est un bon livre ?
Je demande à Patricia oui ou non, et après...
Les critiques littéraires sont des cactus qui vivent de leurs piquants, parmi les vautours qui vivent de leurs plumes.
Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il est question d'une famille norvégienne, d'un programme de réarmement démographique nazi et de transmission familiale. Je vous présente Lebensborn, un roman graphique d'Isabelle Maroger, paru en 2024 aux éditions Bayard. Isabelle Maroger est illustratrice de livres pour la jeunesse et elle avait également fait des dessins, des bandes dessinées comme Coquillettes et crustacés en 2009. Mais avec Lebensborn, elle se lance pour la première fois dans un récit dont elle a à la fois élaboré les planches et le scénario. J'ai eu la chance de rencontrer l'autrice lors du festival du roman historique de Levallois au mois de juillet. L'autrice était très intéressante à écouter et j'ai beaucoup aimé cette BD. J'attends avec impatience ses prochaines œuvres entièrement personnelles. Je vous parlais tout de suite de roman graphique parce que c'est en ce moment le terme consacré pour ces bandes dessinées longues et complexes. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un roman, mais bien d'un récit autobiographique dans lequel l'autrice se met en scène, mais où elle évoque également et surtout l'histoire de sa mère, Catherine Maroger. Et la petite histoire, l'histoire familiale, va croiser la grande histoire, l'histoire avec sa grande hache, comme le disait si bien l'écrivain Georges Perec. Depuis toujours, Isabelle Maroger sait que sa mère Catherine, née en 1944, est en fait norvégienne et qu'elle avait été adoptée par un couple de Français à l'âge de 2 ans. À la mort de sa mère, Catherine Maroger, la mère d'Isabelle, va s'autoriser à enquêter sur le mystère de sa naissance en Norvège et de son adoption. Le titre de la bande dessinée ne laisse pas vraiment de place au suspense. Lebensborn, la mère d'Isabelle Maroger, fait partie de ses enfants nés dans ces maternités nazies très spéciales. Je laisse l'autrice vous rappeler ce qu'est un Lebensborn par la bouche de son professeur d'histoire de collège, puisque c'est la première fois, à l'occasion d'un cours, qu'elle avait entendu ce mot. Pendant que des Juifs étaient exterminés dans des camps, des Aryens naissaient dans des maternités nazies scandinaves. Dépeuplement, repeuplement. Ces maternités étaient appelées Lebensborn. Leben, vie. Born, fontaine, source, en allemand ancien. Des fontaines de vie. Un joli mot pour cacher des horreurs. Isabelle Maroger montre bien comment ces Lebensborn faisaient partie du programme nazi. Les autorités avaient envoyé dans différents pays, dont la Norvège, des soldats SS, des jeunes hommes, en leur demandant de faire des enfants avec les femmes locales. Ces femmes enceintes étaient ensuite accueillies dans ces maternités, à la condition bien sûr qu'elles répondent aux critères physiques demandés par les nazis. La peau, les cheveux et les yeux clairs. Et puis, eh bien, il faut savoir que les enfants handicapés, ou seulement ceux qui étaient jugés non conformes, étaient quant à eux euthanasiés. Avec ce rappel, vous aurez peut-être l'impression que cette bande dessinée est avant tout historique et didactique. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un Lebensborn refermera la bande dessinée en ayant des connaissances sur le sujet. Mais je trouve que ce récit graphique dépasse de beaucoup cet aspect. Rien que la première de couverture nous montre par le dessin un univers en fait beaucoup plus intime, qui tient à la fois de la réalité, mais aussi du conte, du fantasme. Au premier plan, un grand arbre noir, les branches chargées de neige, 5 landaus sont placés les uns derrière les autres. Un arbre noir est à l'arrière-plan, un grand bâtiment ancien avec des colonnes, une sorte de château mystérieux. On distingue la silhouette de sapins sombres et la neige qui tombe dans un ciel rose. Au pied des arbres, sur le sol blanchi, contre tout réalisme, des jonquilles jaunes en fleurs s'épanouissent. L'histoire évoquée par l'autrice s'inscrit bien sûr dans une réalité historique. Isabelle Maroger cite à la fin de sa BD de multiples ouvrages documentaires sur le sujet ou des témoignages, dont celui de sa mère, Catherine Maroger. Elle fait également une petite synthèse sur ces maternités nazies. C'est un épisode historique très bien documenté actuellement, dont on parle peu en France, mais qui est plus médiatisé dans les pays scandinaves. Alors peut-être est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, d'Annie Frid, une des chanteuses du groupe suédois ABBA. Annie Frid était, elle aussi, née dans un Lebensborn. Mais ce qu'Isabelle Maroger montre avant tout dans ce récit graphique, c'est à quel point l'histoire de sa mère a infiltré la vie familiale et donc la sienne. Le récit s'inscrit dans plusieurs lieux et plusieurs époques. Lyon en 2014, quand Isabelle Maroger est elle-même devenue mère. Nîmes, lorsqu'elle est adolescente à la fin des années 90 et qu'elle habite chez ses parents et s'intéresse à l'histoire familiale de sa mère. 2001, avec le retour à Oslo et la rencontre de la famille de la grand-mère biologique. Puis en Allemagne, de celle du grand-père biologique. Catherine Marouget, la mère de l'autrice, apprend donc qu'elle est née dans un Lebensborn et que sa mère biologique Gerda est morte. Mais elle a un demi-frère, une demi-sœur en Norvège, et son demi-frère désire la rencontrer. Alors elle emmène ses filles découvrir cette famille, l'oncle, la tante, mais aussi les cousins, et la grand-tante, la sœur de la grand-mère biologique. Je ne vous parlerai pas du tout de la découverte du grand-père maternel allemand, volontairement, parce que ces pages sont assez surprenantes, et puis je ne voudrais pas divulgâcher, selon l'expression consacrée. Alors j'aime beaucoup les planches qui traitent de la Norvège, et la manière dont elles réunissent le passé et le présent, le réel et le fantasme. Je trouve en particulier intéressant la façon dont Isabelle Marouget utilise la couleur et le noir et blanc. Alors de manière assez schématique, hein, dans les films ou les bandes dessinées, la couleur correspond généralement au présent ou à l'époque la plus proche de nous, et le noir et blanc au passé ou à l'époque la plus lointaine. Or, dans Lebensborn, ces choix sont faits de manière, je trouve, beaucoup plus subtile. Isabelle, sa sœur et sa mère Catherine arrivent en 2001 au chalet familial dans le petit village de Ski, non loin d'Oslo. Une double planche dans un dégradé de gris représente un paysage idyllique, un petit lac, des collines recouvertes de sapins sombres. Mais sur la page de droite, au milieu du dégradé de gris, ressort le chalet rouge vif avec son toit végétalisé bien vert et la petite rambarde d'escalier en bois marron. C'est la maison familiale dans laquelle la mère d'Isabelle, Catherine, n'a pas été élevée, justement. La voiture dans laquelle se trouvent Isabelle, sa mère et sa sœur est conduite par l'oncle, le demi-frère de Catherine. Elle semble être d'un modèle ancien, alors que nous sommes en 2001. L'oncle affirme « Très heureux que tu nous aies retrouvés ». Et cette phrase apaisante semble, avec ce mélange de couleurs, traverser les aînés, les époques, et a l'air d'être un début de réconciliation avec le passé. Je pleure rarement quand je lis des romans ou des bandes dessinées. Mais alors là, j'avoue avoir eu les yeux humides lors de ma lecture. Parce que l'histoire de la mère de Catherine et de sa mère biologique, Gerda, est terrible et a laissé des traces chez Gerda, qui est décédée donc depuis 10 ans, au moment de la rencontre de la famille norvégienne. Dans les années 40, lorsqu'une femme tombait enceinte hors mariage. Mais c'était une honte épouvantable. Hein. Et après la guerre, les femmes qui avaient donné naissance à des enfants dans les Lebensborn, et puis les enfants eux-mêmes, étaient considérés comme de véritables parias. Et je trouve qu'Isabelle Marouget traite ce sujet avec une grande délicatesse, à la fois dans les choix narratifs et puis dans les choix graphiques, bien sûr. Elle a reconstitué l'histoire de sa grand-mère biologique à l'aide en grande partie du témoignage de la grand-tante qu'elle a rencontrée en Norvège, la sœur de sa grand-mère maternelle. Mais elle a dû également imaginer, combler des blancs pour ce récit baigné d'amour maternel, mais aussi d'arrachement, puisqu'il s'agit d'une adoption. J'aime par exemple le dessin très simple de la grand-mère biologique, alors une jeune fille de 18 ans, qui est penchée sur la petite fille qu'elle va pourtant devoir donner à l'adoption. Un profil, des paupières mi-closes qui disent le regard d'adoration fixé sur le bébé qui tend une petite main vers sa mère, le tout en noir et blanc, avec un dégradé de gris et un petit cœur rouge. Alors un cœur pour dire l'amour, c'est tellement cliché, vous me direz. Mais justement, ce contraste de couleurs le dépasse, le cliché. Et il dit aussi la temporalité du sentiment, ou plus exactement sa permanence, sa transmission. L'amour en héritage, malgré tout. Le petit cœur rouge migre entre les pays et les années. Il se déplace sur la dédicace qu'Isabelle fait de sa BD à sa mère. Il surgit entre Isabelle et le petit Arsène, son fils. Une autre planche montre le corps puzzle de l'autrice, avec quelques pièces manquantes et ses paroles. « Avoir retrouvé nos racines norvégiennes, rencontré ma famille, c'est comme avoir retrouvé quelques pièces du puzzle manquant à mon identité et surtout à mon cœur. » Alors un cœur enfin plein et entier, un cœur prêt à accueillir l'amour des générations passées pour combler celle à venir. Je vous conseille donc cette BD émouvante d'Isabelle Marouget, parue en 2024 aux éditions Bayard. Achetez-la, offrez-la à vos proches pour leur parler d'histoire et d'amour. Et puis vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.